Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Erreur, ne tapez pas vampire lesbienne sur Google. Vous n'allez pas trouver les films que vous pensez.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Et je pense que j'ai vraiment fait ce livre en pensant d'abord, malheureusement, peut-être pas d'abord, mais en pensant beaucoup aux lecteurs hommes, alors qu'en fait, maintenant, je m'en fous. Pourquoi les ménager, quoi? De toute façon, je peux même dire, vous êtes super, mais s'il vous plaît, peut-être tuer des femmes n'est pas la solution. Ils vont être comme, ouais, c'est vraiment hyper extrémiste ce que tu dis. Franchement, je sais pas avec qui tu traînes, mais tu dois vraiment traîner avec des sales merdes, parce que moi, jamais je tuerai une femme, ok?
Myriam Mal est illustratrice et autrice de bandes dessinées. Elle a notamment sorti plusieurs BD didactiques comme Commando Culotte, où elle analyse des films et des séries sous le prisme du genre, Les Super Féministes, qui expliquent aux enfants ce que sont les notions de féminisme, de consentement, les notions de genre, d'identité sexuelle, tout ça. Et plus récemment, elle a publié sa première fiction, C'est comme ça que je disparais, qui aborde la dépression et les violences sexuelles. C'est dur, mais c'est absolument sublime, c'est très juste. J'avais jamais vu le vide de la dépression aussi bien exprimé dans une œuvre, donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Myriam passait par Paris il y a quelques semaines pour la sortie de Sous nos yeux, en collaboration avec Iris Bray, donc forcément, quand j'ai vu ça, je l'ai directement contactée pour qu'on se voit et qu'on fasse un épisode ensemble pour parler de plein de trucs, de la progression de son dessin, de son amour pour les dialogues bien écrits. D'ailleurs, elle m'a conseillé plein de films, du fait que dans les œuvres réalisées par des femmes, il y a toujours une notion de lutte et souvent assez peu de place pour la légèreté. Des différences entre les histoires d'amour hétérosexuelles et lesbiennes au cinéma. En général, dans les relations gays, les intrigues sont basées sur le genre ou sur l'homophobie plutôt que sur des problématiques classiques, donc d'amour. Et puis évidemment, on a parlé de l'épisode de Star à domicile avec Nolwenn parce que c'est la moindre des choses. J'espère que ça vous plaira.
Comment t'as su que c'était la BD qui t'animait plus que les autres formes d'expression d'art?
Je pense que j'ai toujours, j'ai toujours dessiné quand j'étais petite et tout à l'école. Genre mes parents, ils ont un dessin encadré que j'ai fait en grande section qui est très laid bien sûr, mais toujours un peu quand j'étais petite. Voilà, Marion elle aime dessiner. Et puis je dirais qu'il y a eu peut-être genre deux moments. Le premier qui est dans la continuité de toujours dessiner, mais c'est vrai que quand j'étais ado, à 10 ans en fait, j'ai commencé à lire des mangas, des shoujo. Genre le premier que j'ai lu c'était Fruit Basket, comme je disais à l'époque, et probablement que maintenant je dirais avec l'accent anglais, mais je vais dire Fruit Basket par hommage à moi-même.
Et c'est comme Charmed.
Ben exact. Et alors d'ailleurs, avant de venir aujourd'hui, j'ai regardé des épisodes de Charmed, de Charmed, car je me suis remise à voir ça et c'est trop bien. Donc voilà, je vous dis, si on vous a dit que Charmed c'était nul, ah non Buffy c'est bien, c'est pas comme Charmed, Charmed c'est trop bien, je peux, voilà. Donc retour, pardon. et en fait j'ai commencé, je pense que je dessinais déjà un peu des tu sais, quand t'es petit, tu fais des jeux avec tes amis, et là tu dessines ton personnage, genre tu joues à Sakura Cardcaptor parce que c'est ça qui passait à la télé. Et là, je dessinais Sakura avec ses tenues et je disais, ah, je suis habillée dans telle tenue, puis après on joue à Sakura avec ma meilleure amie. Mais donc après, j'ai commencé à faire des petites BD très copiées sur les mangas que je lisais. Et puis même, après, je lisais Witch Mag, et dans Witch Mag, il y avait des BD, et après, ils avaient fait un truc magique ou pareil. Donc, tu pouvais envoyer ta BD. Bon, j'ai jamais envoyé ma BD, mais juste, voilà, j'ai toujours un peu dessiné de la BD, je pense. Et puis, c'est vraiment, en fait, moi, à la base, je voulais être comédienne de théâtre. Et j'ai fait le deal avec mes parents, c'était tu fais une prépa, tu fais une licence et après tu vas au cours Florent. Je voulais trop aller au cours Florent, je sais pas pourquoi. Depuis ma petite ville de Charente-Maritime, j'étais en mode ouais, le cours Florent. Donc j'ai fait ma prépa lettres option théâtre à Toulouse. Et là, moi j'étais un peu bonne dans ma petite ville en théâtre. D'un seul coup, je me retrouvais avec tout ce qui était bon dans leur petite ville en théâtre dans la grande ville. Et d'un seul coup, ça me stressait beaucoup. Je me rappelle d'une fois où je récitais le monologue du messager qui vient annoncer la mort d'Hippolyte dans Phèdre, très précis, et j'étais tellement stressée par le mec qui nous faisait faire le stage de mise en scène que j'ai ma lentille qui a sauté de mon œil parce que je clignais pas des yeux. Donc je me suis dit, ok, le théâtre, il y a eu un moment où vraiment je me suis dit, bon, j'ai quand même fait une licence d'études théâtrales après, enfin la troisième année, mais à ce moment-là, j'avais déjà décidé que j'allais faire de la BD, parce que je me disais, ouais, le théâtre, ça me stresse trop, c'est plus un plaisir. Et à côté de ça, j'avais commencé en prépa-lettres à faire des petites BD sur mes profs et tout, que je faisais passer à mes amis, et je lisais plein de blogs BD. Donc et à ce moment-là, voilà, il y avait tout le monde avait un blog où tu racontais un peu ta vie, et donc moi je faisais ça et c'était pas très bien, mais au moins j'avais une pratique régulière. Et je me suis juste rendu compte que c'est très facile pour moi. Bon, c'était nul ce que je faisais, hein, pas en mode tout de suite j'ai trouvé mon langage et c'était incroyable, mais c'était comme très facile pour moi de raconter des choses en BD, même si bien sûr depuis je vois bien mon progrès, les choses que j'ai compris ou quoi, mais juste c'était fun contrairement au jeu qui à ce moment-là me stressait énormément. Je me suis dit à ce moment-là, bah, je pense que je voudrais faire de la BD en fait. Et en plus, je commençais à avoir des amis qui faisaient soit les beaux-arts, soit de la BD. Là, je me suis dit, ok, je vais tenter les écoles d'art et de BD. Donc, j'ai tenté les arts déco. Je passais à première étape et après, ciao. Mais après, donc Saint-Luc que j'ai fait à Bruxelles et que j'ai beaucoup... je veux dire, bien sûr, comme toute école, il y a des points positifs et négatifs, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai choisi ça, j'ai pu vraiment... Je n'ai plus jamais hésité. Mon avenir était tout tracé. Pas du tout. Mais juste, en tout cas,
Ta lentille n'a jamais sauté.
Oui, ma lentille n'a jamais sauté de stress. Des fois, elles se sont déchirées dans mon œil parce que je pleurais trop de joie de faire de la BD. Non, c'est faux. Mais ouais, c'est ça. C'est un peu drôle parce que j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai beaucoup de diplômes qui servent à rien. Genre une maîtrise de sociologie et d'études féministes. Là, je suis en train de finir une maîtrise de cinéma en recherche-création.
Mais c'est cohérent.
C'est cohérent, mais je veux dire, dans le sens que j'ai fait, ce que j'aime trop, c'est que j'ai fait plein de diplômes qui, si jamais j'avais pas fait de BD, j'aurais vraiment été dans le caca, quoi. Enfin...
Ouais, mais là, en l'occurrence, vu que t'as fait de la BD, ouais. Les diplômes, on s'en bat les couilles, mais t'as appris pas mal de choses qui se voient dans ce que tu fais aujourd'hui.
Ouais, je pense surtout, par exemple, pour la BD, ce qui était cool, c'était d'avoir juste le temps d'en faire et des gens qui vont lire ce que tu fais. Et donc ça, c'est très cool.
Mais pour le switch, sur le fait que tu voulais être comédienne et puis que t'as bougé vers la BD, je trouve ça assez curieux comme changement, parce que genre autant dans le théâtre c'est un truc très rigide où tu joues des choses, oui tu peux les réinterpréter un peu, les modifier et tout, mais c'est quand même, on t'impose énormément, là où dans la BD t'as beaucoup plus de liberté.
Oui, vraiment. Moi, je pense que vraiment, j'ai vraiment une histoire avec le théâtre très classique. De base, j'étais hyper timide quand j'étais petite, genre vraiment très réservée. Mais j'avais quand même beaucoup d'amis et tout. Mais tu vois, j'étais toujours, par exemple, au collège, mon groupe d'amis, c'était les meufs cool et populaires et tout. Et moi, j'étais un peu l'intello. J'avais un an d'avance et qui s'habillait mal et qui était mal coiffée et qui était timide et voilà. Et je faisais des statuts MSN pour dire super. J'ai cru que nous faisait une blague, mais en fait, elle faisait une blague sur moi et moi, vous comprenez pas. Je suis vraiment triste tout ça parce que mon ami m'avait dit. En fait, ta coiffure est juste normale et non pas absurde. Enfin, ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais c'est un souvenir très précis que j'ai dans ma tête. Ou après, des trucs de comme, mais putain, j'étais trop bête à ce moment-là. Bon. Bref, pardon.
Mais pourquoi t'étais avec les cool alors si...
Parce que je pense que j'étais quand même sympa. Et je pense que j'étais drôle dès que je connaissais bien les gens. Mais c'est vrai que, par exemple, j'avais très peur de prendre la parole, de lever la main en cours. Et là, mon père m'a forcé à m'inscrire au théâtre. En plus, je me suis fait un peu, pas bully, mais en gros, des filles de ma classe qui étaient mes amies, enfin, copines, ont perdu leur souffre-douleur. Et pendant genre les trois derniers mois de l'année, c'était moi, voilà. Donc, pas une histoire dramatique de bullying, mais juste, voilà, j'étais bien timide et renfermée. Et là, mon père m'a dit, ok, non, tu vas t'inscrire au théâtre parce que tu vas devenir mieux dans ta peau. Et j'étais comme, non, jamais, papa. Tu sais pas ce qui va se passer. Je vais jamais être mieux dans ma peau. Et là, au final, je suis allée faire du théâtre. Et d'un seul coup, ah, trop bien, je sais faire des blagues et faire de l'impro. Et j'imite la prof de latin et tout le monde trouve que je suis drôle. Et d'un seul coup, je deviens hyper sociable et voilà. Donc, j'aimais vraiment le théâtre pour ça parce que je me suis vraiment sentie aimée, en fait, pour la première fois. Enfin, non, mon Dieu, c'est hyper dramatique, mais populaire plus qu'aimée, comme juste ça m'a fait sentir bien et un peu que comme j'avais de la valeur aux yeux des gens et moi j'aimais ça, j'aimais jouer, j'aimais beaucoup ça aussi, c'était pas juste un truc d'avoir de la valeur, mais plus ce sentiment d'être bon à quelque chose Voilà. Cela dit, c'était un peu ça avec le dessin aussi, parce que oui, je me faisais donner des claques parce que ma mère était écolo par les jumelles, dont je ne vais pas dire le nom car je m'en rappelle très bien, parce que leur père était chasseur et du coup, elle n'aimait pas ça. Ah ouais, surprise, maintenant je suis vegan, bitch. Comment je faisais pour dans le bus pas me faire emmerder, c'était que je faisais des dessins, soit de filles sexy pour les garçons, soit juste de filles cool pour les filles. Donc voilà, je me suis toujours un peu sortie grâce à ces deux trucs. Et après en fait, je parlais que la BD c'était facile à faire pour moi, mais dans le sens j'avais besoin d'un moyen d'expression. J'écrivais beaucoup aussi, c'est drôle, j'écrivais beaucoup des nouvelles. J'ai essayé d'écrire des romans, mais bon, on est enfant donc on n'écrit pas des romans en entier. Et maintenant, je serais complètement incapable d'écrire sans image. C'est vraiment un langage particulier, la BD, avec l'image et les mots qui racontent quelque chose ensemble. Donc en fait, c'est ça, c'est que vraiment, le théâtre, à ce moment-là, c'était une bonne façon de m'exprimer. Je pense aussi, quand on est ado, voilà, d'exprimer une façon de soi, où on peut jouer des rôles, où on peut être à l'aise dans son corps. Parce que moi, voilà, je me trouvais moche. Voilà, on me faisait plein de remarques sur mon poids, on me faisait plein de remarques sur mes cheveux. J'étais emo, en plus, à un moment. Donc là, plein de remarques sur mon look, sur mon maquillage. Et c'était un peu le moment où je pouvais un peu m'en fiche de mon apparence d'une certaine façon, parce que ce qui était important c'était de bien jouer. Et à un moment où c'est devenu justement stressant, ou peut-être aussi un truc de j'ai senti que j'étais plus tout de suite très bonne, et là il y avait un autre truc qui faisait rire mes amis, où les gens me valorisaient, etc., et que pour moi c'était agréable. C'est drôle parce qu'aussi le théâtre c'est quelque chose de très tu sais probablement mieux que moi, parce que en même temps tu joues aussi seul et tout, mais c'est quand même quelque chose d'un point de très social, collectif, il y a des gens devant toi, il y a des gens avec qui tu travailles. En BD, c'est vrai qu'elle était toute seule. Et d'un côté, maintenant, moi, par exemple, là, j'aimerais bien faire des films. Et je me rends compte, voilà, j'ai écrit un scénario, j'ai essayé de chercher du financement et tout. Là, d'un seul coup, il y a plein de gens qui veulent réécrire derrière toi, qui veulent te dire des choses en mode, ouais, faudrait que ça fasse 18 minutes au lieu de 24, des choses très aléatoires et qui n'ont pas rapport avec, et d'un seul coup, que tu dois lâcher sur des points, et j'y arrive pas du tout, et je suis très, non, moi, je veux que ça fasse 24 minutes, parce que c'est ça, l'histoire, elle fait 24 minutes, et nanana, et bon, et je sais que c'est aussi apprendre à travailler avec d'autres gens, mais tout ça pour dire que, étrange, car un était pas solitaire du tout, l'autre l'était beaucoup, mais en même temps, l'important c'était, j'imagine aussi raconter des histoires, au final, c'est aussi ça qui est un peu le lien dans les deux. Je suis pas devenue essayiste, par exemple. Même si je suis extrêmement intelligente, bien sûr.
Mais justement, le fait que t'aies commencé, ou en tout cas, moi, les premières choses que j'ai lues, c'est des BD didactiques, donc où tu parles quand même d'une base existante et que tu vulgarises. Là où dans C'est comme ça que je disparais, c'était la première fiction. Donc, comment t'as fait ce switch là aussi entre vraiment quelque chose où avant toi il y avait rien. T'as tout créé dans C'est comme ça que je disparais.
C'est vrai, c'est ça que j'aime, parce que je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. J'ai toujours aimé inventer des histoires et tout ça, même petite, dès la petite enfance. Mais au final, j'étais quand même très inspirée par, soit par d'autres œuvres, c'est-à-dire moi, beaucoup très inspirée par le cinéma, par aussi d'autres artistes en bande dessinée. Mais je pense que pour ce livre, j'étais à fond dans ma période très classique. Mais voilà, Romère, Varda. Ça m'a beaucoup, même plein de films avec beaucoup de gens qui parlent de leurs émotions, voilà, qui m'ont beaucoup marqué dans la mise en scène, la composition de l'histoire, etc. Et de l'autre côté, moi, quand j'écris de la fiction, quelque chose que j'aime, c'est de prendre. J'invente jamais une histoire à partir de rien. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de faire de la science-fiction, qui sait, ou en même temps je pense que toutes les œuvres, même la science-fiction, sont très sociales et très marquées par le contexte dans lequel elles sont écrites et créées, tout ça. Mais il y a aussi quelque chose que j'aime de regarder, d'observer beaucoup, de prendre des bouts de ma vie, des bouts de la vie de mes amis, c'est pas juste un. C'est drôle parce qu'avant j'entendais des fois des gens qui disaient ah oh, ben voilà, ça c'est pas de l'autofiction ni de l'autobiographie, mais c'est vrai que je m'inspire de ce qui m'est arrivé, de ce qui est arrivé à mes amis, et je me disais oh, c'est juste un patchwork de choses qui sont vraiment arrivées mais que tu mets dans une histoire, alors qu'en fait non, c'est juste une certaine situation, et donc tu te dis ah mais là ça sonnerait bien et ça pourrait arriver et ça marcherait bien dans l'histoire. Je sais pas, j'ai l'impression de qu'il y a beaucoup de choses justement, et que c'est très très contextuel ce que je fais. Et en même temps, pareillement, par rapport à de la BD didactique, ce qui est drôle, c'est que je pense que j'ai aussi un mode de pensée où, par exemple, la BD didactique, je fais un plan, comme un plan de dissertation. Je fais vraiment partie 1, partie 2, partie 3. Et après, je commence à dessiner directement. Et voilà. Et là, en fait, quand j'écris de la fiction aussi, souvent, j'écris des bribes, des notes, en fait, dans mon téléphone ou dans un cahier. Et ensuite, je les remodèle. Et genre, je suis comme, ah, j'aimerais qu'à tel moment, elle parle de tel truc que son mec lui avait dit. J'aimerais qu'à tel moment, il se passe, machine et machine se disputent. Bon, et je sais pas trop où est-ce que je veux le placer. Et là, je construis l'histoire. Et souvent, je la construis en faisant, bon, mon découpage. J'écris vraiment en dessinant l'histoire en même temps aussi. Et pour moi, c'est un peu la même façon. Les deux se ressemblent aussi, d'une certaine façon. Et
pour les autres choses, les choses que tu mettais sur ton blog, les choses que tu mets sur Instagram et tout, c'est des trucs qui t'arrivent, hein, genre tu notes et puis tu reviens là-dessus quand t'as du temps, ou bien est-ce que des fois tu dis ok, je vais faire un projet où je vais faire que ça, et donc là tu pioches les idées un peu dans tes souvenirs et tout.
Tu veux dire des trucs que je fais juste sur Instagram?
Oui.
Par exemple, l'histoire du fantôme ou des choses comme ça, je sais pas si c'est de ça.
Persil.
Ah, Persil et Perséphone. Bah, Persil et Perséphone, pour le coup, ça, c'était un des premiers trucs que j'ai fait. C'est drôle parce que souvent les gens me disent, ah ouais, j'aimerais bien présenter ma telle BD à un éditeur. Et c'est souvent le premier projet de BD que ils et elles ont fait de leur vie. Et d'un seul coup, ils veulent tout de suite le présenter à un éditeur. Et je vois ces trucs-là. Et des fois, il y a beaucoup de qualité, mais il y a aussi un peu des défauts parce que c'est impossible, en fait, de faire de la BD pour la première fois sans, ou alors vraiment, il faut avoir tout compris et être un petit prodige. Mais souvent, il faut s'entraîner. Et je pense que, par exemple, les écoles, ça peut servir à ça, même si c'est pas toujours suffisant. Bon. Moi, du coup, Persil et Perséphone, c'était mon entraînement. Je suis sortie de l'école, j'avais fait de la BD didactique et je voyais bien que on me proposait un peu que ça et tout. Et je savais qu'il allait falloir qu'à un moment... moi, je voulais faire de la fiction, donc j'allais devoir faire autre chose. Et que je risquais d'être enfermée. Donc je me suis dit, bon, là, j'ai clairement pas les capacités de faire un livre de 200 pages maintenant. Je trouvais que mon dessin était trop rigide, mon dessin de narratif. Je trouvais que mon dessin était trop rigide. Je trouvais que j'avais jamais fait à l'école une histoire de plus que genre... je pense qu'on avait fait 6 pages, et pour mon jury, j'avais fait 20 pages. Et par exemple, voilà, j'aimais pas du tout ma BD de diplôme, parce que je trouvais que les personnages étaient trop stiffs. Au jury, il y a une des meufs de mon jury qui était là, qui était une autrice de BD, qui m'a dit, mais en fait, les dessins que tu fais sur ton blog, ils ont l'air beaucoup moins rigides. Comment tu fais? Je fais pas de crayonné. Elle m'a dit, essaye ça. Et donc, pendant un petit moment, j'ai fait des fanzines, dont Perséphone qui était le premier, parce que aussi à Montréal, il y a plein de petits salons et tout, tu peux vendre tes fanzines, tu fais juste un truc broché, pas besoin que ce soit un objet d'art. Donc, il y a plein de places pour l'auto-édition. Et donc, j'ai fait des petits fanzines avec des petites histoires, en racontant un peu ce que je voulais raconter et en me disant, comme ça va m'entraîner. Et donc je faisais vraiment, c'était vraiment des BD à main levée, j'y allais directement à l'encre. C'est pour ça que des fois il y a des dessins un peu pétés, enfin le plus que je faisais c'était des fois de nettoyer un peu sur Photoshop quand il y avait des traits qui partaient dans tous les sens. Mais et ça m'a vraiment permis de à la fois comprendre mon dessin, comprendre comment je dessinais, comprendre comment je travaillais, comprendre comment j'écrivais et ce que j'avais envie de faire. Et aussi simplement de tester des trucs, de la composition, de la façon de dessiner, de la façon d'écrire des dialogues, parce que moi j'ai un peu mon péché mignon, c'est les dialogues bien écrits dans les films, dans les livres, partout. Enfin, et donc c'était un truc que je me mettais la pression sur ça et voilà.
T'as en tête un dialogue qui t'a mind blown?
Tu veux dire positif?
Oui.
Oui.
Négatif, je pense, t'en as plein aussi.
Mais ouais, mais tu vois, là, j'aurais du mal à me souvenir. Beck BD. Hop, c'est bon. Je me rappelle un jour, j'avais lu un truc de Beck BD. J'étais comme, wow.
Mais on dirait une parodie, je trouve.
Alors oui, c'est incroyable. On dirait vraiment, en tout cas. ça doit être très difficile d'être un homme bourgeois et de vouloir écrire des livres médiocres, vu le nombre qu'il y a sur le marché. Il y a un super article qui s'appelle. The Male Glance de Lily Loveborough. C'est un article où elle parle du concept de male gaze, donc comment les hommes voient les femmes dans les œuvres d'art.
Qui a été traduit beaucoup par Iris Bray notamment.
Iris, en fait, le male gaze à la base c'est Laura Mulvey.
Ouais.
Et c'est ça, ouais, qui a fait le regard féminin. À partir de ça, elle a travaillé. Mais oui, c'est un peu un concept de base de féministe des études cinématographiques et donc ça a été un peu repris à toutes les sauces et dont par Iris Bray en effet. Et du coup, elle dit, mais ouais, c'est pas juste comment les femmes sont représentées, c'est aussi comment les œuvres de femmes et les œuvres d'hommes sont reçues, à la fois par la critique, par les milieux. Elle parle du milieu universitaire, elle parle du milieu de la série, parce que c'est une journaliste série, je pense, des films et tout. Et elle dit, quand t'es une meuf, on va être en mode, limite, c'est un accident, si t'as fait un bon truc, et on va toujours vouloir savoir si c'est autobiographique. Quel événement de ta vie a fait que t'as voulu écrire ça? Et si t'es un mec, ça va être du travail, ça va être du génie, ça va être machin, ça va être voulu, ça va être une continuité, alors que les femmes, voilà, c'est un peu un accident qu'elles aient un bon... dans leur parcours, et alors qu'en fait, et les hommes, pour devenir des génies, elle parle aussi de la médiocrité du génie des hommes, quoi. C'est très facile pour un homme d'être qualifié de génie. Genre, moi, je regarde des films de Godard et je suis comme, ok. Et à côté, je regarde les films de Varda, et donc, elle aussi, elle est très connue. Je suis pas en mode, Varda est inconnue, mais clairement, c'est lui le symbole de la nouvelle vague. Mmh. Et je vois les films de Varda, où alors, c'est politiquement incroyable, narrativement incroyable, ces documentaires sont, bah, incroyable aussi, quoi. Enfin, il y a un travail, une nouveauté. C'est elle qui a fait le premier film de la nouvelle vague en France et tout le monde l'oublie. Enfin, bon. Et pourtant, c'est à lui qu'on associe ce courant-là. Bon, bref, petit 10 sur les hommes finis, excusez-moi. Mais du coup, et là, donc je vais citer un homme pour les dialogues bien écrits. Mais moi, par exemple, quand j'ai découvert le cinéma d'Éric Rohmer, ça m'a mind blown pour le coup. Et il a été un peu ma porte d'entrée, par exemple, Varda aussi. Et puis maintenant, à plein de. Je pense que je m'étais beaucoup éloignée du cinéma et notamment à cause des hommes. Il y a eu une période dans ma vie où malheureusement je relationnais avec des hommes et notamment des hommes plus vieux que moi. Je sais pas si t'as remarqué que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, les hommes plus vieux qui essayent d'impressionner et de en même temps abaisser les femmes plus jeunes, ils leur montrent genre Pierrot le fou, des films, ils sont en mode je vais te montrer des films d'intello et en même temps en faisant que ça soit très aride pour toi pour que tu comprennes pas, ou alors moi mon ex il aimait trop les films de trader et ça me saoulait et genre je me suis hyper éloignée du cinéma parce que lui, il me faisait sentir conne. Et donc, moi, je me suis un peu réfugiée dans les séries à ce moment-là. Et là, je suis revenue par Rohmer dans le cinéma. Et il se trouve que je trouve que ses dialogues sont incroyables. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il invitait. Et d'ailleurs, un des rares hommes à pas considérer les meufs comme des bouts de viande, mais comme des vraies personnes. Donc, ces personnages féminins sont très cool. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est féministe, parce que je pense qu'il était absolument pas féministe. C'était un catho très conservateur et tout. Mais... très fan du mariage, mais en même temps ces personnages féminins justement elles sont assez incroyables et notamment il invitait par exemple donc ces actrices qui étaient souvent des jeunes meufs et il les invitait à boire le thé et il les faisait boire le thé et il les écoutait parler et là il parlait avec elles bien sûr pas en mode creepy mais il notait un peu leur sujet de conversation d'intérêt et tout et là il en faisait des films et en même temps donc ce qui est très intéressant dans ces dialogues c'est qu'ils sont à la fois très écrits parce qu'apparemment il fallait pas bouger une virgule et très oraux, dans le sens que c'est très... Et à la fois... et des fois, même quand c'est joué, des fois, c'est presque récité et on dirait presque une récitation de poésie. Et des fois, c'est très naturel, mais le texte va être un peu trop écrit pour... J'adore ce truc-là parce que j'ai... Je trouve que... Ce qui est important, c'est que ce soit vraisemblable plus que réel, que ça marche dans l'univers qu'on écrit et tout. Et c'est impossible pour moi d'aimer un cinéma où les dialogues sont... pas bien écrit, et ça veut pas dire que j'aime que les dialogues qui ont l'air vraiment très vrais, ou que les dialogues qui sont très écrits, c'est vraiment, j'ai besoin que ça marche dans le film, et que il y a un soin particulier, je sais pas, et aussi peut-être parce que je viens du théâtre, tu vois, donc j'ai aucun problème, par exemple, avec un truc plus théâtral, je sais pas si t'as vu que tu aimes bien le Québec, je sais pas si t'as vu La femme de mon frère de Monia Chokri.
Non.
C'est un film super bien, moi j'ai adoré de Monia Chokri, donc qui est connue aussi parce qu'elle est actrice, par exemple, dans les Xavier Dolan, c'est un peu une actrice fétiche de Dolan. Et c'est un film super, et c'est très, c'est son premier long métrage, et c'est super, enfin, esthétiquement, il y a des couleurs très pastel, très presque très lisse, enfin un peu pas aseptisée mais presque fausse partout, mais ça marche super bien. Les personnages, ils sont très théâtraux et en même temps c'est super intime parfois. Il y a des trucs super personnels et en même temps dans ce too much, enfin ça fonctionne trop bien et tout fonctionne trop bien ensemble parce que justement il y a une cohérence et il y a un style et tout. Donc voilà, on dirait que je juge, c'est pas du tout ça, je suis pas en mode bon point, mauvais point, pardon, c'est juste, j'adore faire attention à comment sont écrits les dialogues parce que je trouve que ça en dit beaucoup et que c'est quand même un truc, j'imagine qu'on a tous nos préférences dans des choses et moi c'est ça, voilà, c'est mon petit kiff.
C'est quoi dont t'es le plus fière dans ce que tu fais?
Je pense que je suis le plus fière de mes dialogues, justement. La plus fière, pardon. Je suis vraiment contente de moi parce que justement, je me mets la pression un peu. Et du coup, ben, je m'en rends compte parce que des fois, avec mon éditrice, j'adore mon éditrice, elle comprend très bien ce que je veux faire. Mais bon, des fois, du coup, elle me fait des retours, tant mieux, sur mes planches. Et en fait, des fois, je suis comme, non, mais je m'excuse, je ne peux pas mettre une virgule ici. C'est impossible, je peux pas. Ou alors, elle me dit, ouais, tu pourrais peut-être enlever tel mot. Et je suis comme, non, c'est plutôt mourir, quoi. Parce que c'est hyper important pour moi que la virgule soit là, parce que ce mot plutôt qu'un autre, c'est super important. Et en fait, je peux l'expliquer à chaque fois, et je dis pas que ça fait que c'est une bonne raison, mais je trouve que c'est chouette parce que ça... Enfin, j'en suis fière parce que ça veut dire que je prends ça au sérieux et que c'est le truc que je me donne comme défi, donc voilà. Et sinon, l'autre chose dont je suis la plus fière, c'est vraiment... du public que j'ai, pas dans le sens que je suis fière de mon public, bravo vous êtes, mais parce que les gens sont trop gentils et je me dis, oh, je dois être une personne un peu ok, en tout cas une artiste un peu ok, si jamais les gens qui viennent me voir sont trop des purs anges. Je me sens très chanceuse, voilà, désolée, je parle très mal, mais qu'est-ce qui se passe? Mais...
Et c'est quoi une chose que t'aimais moins dans ton travail avant et que maintenant t'as changé, un truc où tu t'es vu vraiment grandir dans ton taf?
Ben, la réponse facile, je pense que ça serait mon dessin, parce que, mais ça, c'est aussi un peu injuste, je dirais, parce que moi, j'ai fait mon premier livre, donc Commando Culotte, j'étais très jeune, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 21 ans, et il a été publié, j'en avais 24, bon, quand même, j'étais un peu, mais bon, en gros, c'est des dessins qui datent depuis que j'ai 21 ans, et je suis rentrée en école de BD, j'avais 20 ans. Tout ça pour dire que c'est le moment où j'ai commencé à travailler mon dessin, et aussi, donc moi, j'ai tout de suite été cataloguée comme dessinatrice qui dessine mal. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, je trouve ça très drôle parce que là, mon livre vient de sortir aux États-Unis. Là, c'est comme ça que je disparais. Et j'ai des super gentils compliments sur mes dessins, alors qu'en France, j'ai eu beaucoup de gens, qui ont dit que mon dessin était bien aussi. Mais il y a eu beaucoup, voilà, de oh, le dessin est trop simple, dommage, le dessin est minimaliste. Oh oui, un dessin trop peu maîtrisé. Des gens qui disaient que je savais pas comment dessiner et tout. Et je trouve que c'est super dur parce que tu peux dire que t'aimes pas mon dessin, bien sûr, mais je pense que je sais comment dessiner. Tu peux dire que je dessine mal si tu veux, hein. Mais voilà, des trucs qui sont un peu en mode oui, le dessin c'est pas son fort, alors que moi, mon dessin il était très pensé pour ce livre-là. Tu vois, je me dis, par exemple. Pourquoi est-ce que t'aimerais pas mon dessin et t'aimerais celui de Pénélope Bagieux? Parce que je pense à, et j'adore Pénélope et c'est une amie et c'est une artiste que j'admire et c'est pas du tout en mode son dessin est moche et le mien est beau. Non, non. Le sien est très cool aussi. Mais tu vois, je pense parce que à une personne qui avait écrit un article et qui, moi, critiquait mon dessin et ensuite qui avait fait un article sur le sien. Et oui, ok, elle faisait de la couleur et tout, mais on n'est pas si lointaine, tu vois, genre. C'est pas comme si tu disais c'est super moche, la seule bonne BD c'est Blake et Mortimer. Il y a comme un truc de, et voilà, après, je peux très bien comprendre qu'on trouve que mon dessin est moche, vraiment. Mais il y a vraiment un systématisme de dire que mon dessin, voilà, est pas beau et tout. En plus, voilà, parce que je pense qu'aussi, quand t'es une meuf, tu dois faire un dessin hyper esthétique, tu dois faire... On te pardonne pas de vouloir faire des dessins moches. Et moi, par exemple, dans Commande du culotte, le but, c'était que mes dessins soient rigolos. Et pas du tout qu'ils soient beaux. Et moi, j'étais hyper inspirée par la BD indépendante et tout. Après, ceci étant dit... Je déteste mes dessins dans Commando Culotte maintenant. J'étais très jeune, j'avais pas du tout travaillé mon dessin et maintenant je suis très contente. Même par exemple quand je fais La Ligue des Superféministes, qui est aussi de la BD didactique, et le dessin ne ressemble pas à celui de C'est comme ça que je disparais. Je suis juste contente parce que je sais qu'est-ce que je veux faire et quel dessin utiliser pour quel genre d'histoire ou de livre ou d'illustration que je veux faire. Même si je n'aime pas mon dessin, dans le sens que je trouve toujours que mon dessin il faut qu'il progresse beaucoup. Enfin, je suis jamais satisfaite et je suis pas en train de dire maintenant je dessine bien. Mais je suis très contente de, à la fois ne pas m'être trop laissée atteindre par ça, même si bien sûr ça m'a atteinte. La preuve, j'en ai parlé là tout de suite en mode, ouais, on m'a dit que je dessinais mal, mais désolée de vous dire qu'aux États-Unis, on dit que je dessinais bien. Non, non. Qui a raison? Mais plus que, je suis contente d'avoir réussi à pas, à continuer à faire un peu ce que je voulais faire et à continuer toujours à tester des nouvelles choses en dessin. Là, mon prochain livre, il est au crayon de papier et en couleur. Donc, c'est un dessin plus délicat, forcément, vu l'outil. Et surtout, en fait, d'avoir toujours voulu apprendre à dessiner pour faire de la BD. Comme j'adore faire de l'illustration, mais j'ai toujours besoin de faire de l'illustration aussi qui est lié à un texte ou quoi, parce que je sais pas vraiment, j'aurais du mal à faire un livre muet d'illustrations, de belles images et tout, parce que je pense que moi, les images, j'utilise pour raconter des histoires. Et donc, la BD, c'est trop bien parce que c'est texte et dessin. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment construit mon dessin par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que le truc que j'aime le moins et que j'aimais le moins, c'était mon dessin. Et maintenant, je l'aime toujours pas trop, mais au moins, je suis contente de ce que je fais avec. Désolée, mon Dieu, on dirait que je suis hyper prétentieuse.
Non, je l'ai pas du tout compris comme ça.
Ok, pardon. Mais... Et puis, je pense aussi que j'étais moins sûre de moi, mais c'est normal. Et des fois, par exemple, quand je lis Commando culotte, maintenant, je pense que je serais un peu plus radicale sur certaines choses, dans le sens que je pense que je m'adressais aussi... Parce que là, bon, Commando culotte, du coup, c'est une BD où je parle d'œuvres de la pop culture et de questions féministes, et du coup, sous l'angle des questions féministes et de justice sociale. Et je pense que j'ai vraiment fait ce livre en pensant d'abord, malheureusement, peut-être pas d'abord, mais en pensant beaucoup aux lecteurs hommes, alors qu'en fait, maintenant, je m'en fous. Si jamais ils veulent pas lire ça, ils veulent pas lire ça, pourquoi les ménager, quoi ? Et j'ai, de toute façon, je peux faire la... Des fois, je faisais des notes en mode « Non, mais je déteste pas les hommes et tout. » Et je me prenais quand même des messages d'insultes, de... Ça sert à rien, en fait. Si jamais ils veulent lire ça, ils le liront dans tous les cas. Et s'ils veulent pas le lire, je peux même dire « Vous êtes super, mais s'il vous plaît, peut-être tuer des femmes n'est pas la solution. » Ils vont être comme « Ouais, c'est vraiment hyper extrémiste ce que tu dis. Franchement, je sais pas avec qui tu traînes, mais tu dois vraiment traîner avec des sales mères parce que moi, jamais je tuerai une femme, ok ? Et c'est pas parce que mon ami a tué une femme et que je reste amie avec lui que moi je tuerai une femme. Donc, et j'adore Bertrand Cantat, mais bon, c'est parce que je sépare l'homme de l'artiste. Donc, désolé. Voilà. Les mails que parfois je reçois et je suis comme « Waouh, t'as passé 45 minutes à l'écrire et puis je vais le mettre dans ma corbeille. Bonne journée. » Bah, je réponds pas, hein, je le dis juste dans ma tête.
Ok.
Et voilà.
Mais ça, c'est un truc qui me fascine un peu chez les autrices qui abordent souvent les questions sociales, les questions de sexisme, de féminisme et tout, de l'énergie qu'il faut pour continuer à faire son taf, juste sans avoir envie de te flinguer à un moment, parce que tu vois que il faut juste attendre que la génération meure, en fait.
Mais je sais pas, parce que, tu sais, moi je fais des fois des trucs dans des écoles et tout, et j'avoue que les ados, j'adore parce que les petites meufs qui sont extraordinaires et les petits gars aussi qui... Petits gars, petites meufs, je suis très binaire. Mais en tout cas, tous les ados et pas juste les ados filles ou non binaires mais qui vivraient le sexisme. Mais même, voilà, même les petits gars hyper virils et tout, en fait, oui, ils ont déjà pris plein la face des idées préconçues et etc. Mais il est pas trop tard, quoi. Tu leur expliques un truc, ils sont comme, ouais, ok. D'accord. Ah oui, en fait, les féminazis n'existent pas. Ah, ok. Ah oui, en effet, ça fait plus de sens que les vrais nazis soient ceux qui veulent tuer les féministes et toutes les personnes qui sont pas des hommes blancs hétérosexuels et qui leur conviennent, quoi. Et donc, bon, voilà, là, j'avoue que j'aime pas non plus leur dire « Ah, j'ai trop d'espoir en vous » parce que c'est beaucoup à mettre sur leurs épaules, mais ça fait du bien, c'est un baume à l'âme, disons. Mais il y a des gens de notre âge, moi j'ai 29 ans, ou même des gens un peu plus jeunes et tout, qui ont des propos hyper réac, ben là, on voit avec... les jeunes avec Zemmour et tout, et je sais pas, enfin moi c'est ça qui m'effraie en fait, c'est la perdurance, persistance de ces idées-là. Et en fait, par rapport, si on parle du sexisme et de faire parler de questions féministes, moi voilà, maintenant je fais plus de BD didactique parce que j'ai envie de me concentrer sur la fiction et que aussi ça me rendait un peu malheureuse au bout d'un moment, c'est très enfermant de faire toujours la même chose. Mais des fois voilà, sur mon Twitter par exemple, je parle beaucoup de questions qui... liées au féminisme et à la justice sociale, notamment plusieurs fois je me suis exprimée sur... Alors j'ai deux trucs pour lesquels j'ai reçu plein de mails. Premièrement, souvent après les festivals de BD, je suis à la fois très heureuse parce que j'ai vu plein de mes amis et tout, et aussi je suis absolument... pas dévastée, mais... comme dans le sens que... Moi je suis arrivée dans le milieu de la BD à 19 ans, ça fait 10 ans. C'est toujours les mêmes mecs qui te... t'attrapent le cul et qui genre ont des réputations de violeurs et des réputations d'harceleurs et tout. Toujours les mêmes mecs, des nouveaux bien sûr qui apparaissent chaque année, mais voilà, il y a des mecs, ils n'ont aucun pouvoir. C'est ça le truc, c'est que c'est pas des mecs riches, c'est pas des mecs qui vendent beaucoup de livres, c'est juste du copinage. Ils continuent à graviter dans ce milieu, ils continuent à attraper des culs, ils continuent à être déplacés avec des meufs de 17, 18, 19 ans, et donc à chaque fois, des fois je fais des tweets sur ça, et là je me prends des messages en mode, des mecs bien intentionnés qui sont en mode, pouvez-vous me donner la liste s'il vous plaît? Et je suis comme, mais non en fait, enfin, dans quel monde tu vis? Les meufs risquent gros si elles dénoncent, enfin, sinon on le ferait, quoi. Donc il y a ça. Et sinon, le truc où je me prends régulièrement des mails. J'avais fait un article sur l'impunité des hommes célèbres en 2016. Mmh. J'avais passé 3 mois à lire des articles sur des hommes célèbres qui violent, qui agressent, qui des fois tuent des femmes. Donc j'étais bien 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 déprimée après ça. C'était quand même dur. Travail, je pense que c'est 16 ou 18 pages de BD. C'était un gros truc gratuitement. Hein. C'était sur mon blog. Enfin, c'était pas un truc de commande. Et dedans, il y a une liste où j'avais dit, regardez, voilà, par exemple, des gens qui ont été, qui sont passés devant la justice, certains qui ont été condamnés et qui n'ont rien eu. Donc déjà, ça ressort tout le temps en me disant, ouais, nanana, l'homme de l'artiste. Mais aussi, un truc, c'est, je parlais de mecs qui, à 55 ans, je sais pas, comme Gainsbourg ou Charlie Chaplin, sortaient avec des meufs de 16 ans et je disais, ça n'a jamais entaché leur image, quoi. Enfin. Et alors ça, voilà, je reçois des mails des fois, mais comme as, enfin, genre de 3 pages de long pour me dire, non mais, elle était majeure légalement, sexuellement majeure. Vous êtes un peu dur de le mettre dans cette liste. Et voilà, et souvent, je critique aussi les grandes différences d'âge et tout. Et là, je me prends des mails. Et je suis, en fait, maintenant, soit je réponds pas, soit des fois, je fais une réponse que j'envoie copier-coller. Je dis, est-ce que vous avez déjà envoyé ce mail à un mec qui défend les violeurs? À un mec, genre, vous venez me faire chier parce que je dis, waouh, tel homme de 60 ans qui couchait avec une nénette de 16 ans. Est-ce que ça serait pas un peu pédophile? Et là, on me dit tout de suite les grands mots. Non, c'est la liberté, elle était adulte, elle aussi, nan, nan, nan. Je suis comme, mais waouh, t'as passé 1 heure de ton temps pour m'écrire, pour défendre ce vieux mec qui, littéralement, si t'étais en train de mourir dans le coin de la rue, te laisserait de là. Enfin, et ça, c'est quand même cette énergie dépensée par les hommes pour défendre ce genre de comportement. Et ce qui m'a tué, c'est que c'est des mecs de tout âge, quoi. Des darons, comme des mecs de 22 ans, comme des gars de 60 ans. Enfin, c'est hyper fatigant. Mais au final, c'est des anecdotes et moi, je fais juste de la BD. Donc, je pense que si j'étais genre youtubeuse, ça serait horrible, tu vois. Genre, tout le monde s'en fout de la BD, donc. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire. Juste là, j'ai illustré un livre avec Iris Bray et je voyais la différence de demande de gens pour des interviews et tout que quand moi je sors un livre. Et je pense juste que d'un côté, des fois c'est chiant parce qu'on est comme ah ouais, bah j'aimerais bien que plus de gens lisent mon travail, mais au moins dans ces cas-là, c'est vrai que ça protège d'une certaine façon parce que j'ai eu quelques raids du forum maudit, mais assez peu comparé à si j'étais. Voilà, donc je sais pas, j'ai spiralé beaucoup, je sais pas trop, enfin pas spiralé, mais fait des petits slaloms. Je m'excuse, je vais un peu. Ouais, c'est chaud d'être une meuf sur Internet, en général, et qui parle de féminisme, et toutes ces choses-là, une séparée de l'autre.
Et j'ai écouté l'épisode Dans le genre 2 que t'as fait avec Géraldine Surnova, qui était très intéressant d'ailleurs. Et vous parliez à un moment du fait que dans les œuvres de femmes, c'était toujours un peu déprimant parce qu'il y avait toujours une lutte, il y avait toujours un truc à porter, à défendre et tout. Et les femmes peuvent se permettre très peu de légèreté. Est-ce que toi, c'est un truc vers lequel tu aimerais aller ou est-ce que c'est un truc que tu te permets, que tu arrives à faire?
Alors merci, c'est vraiment une très cool question et en plus c'est drôle parce que c'est depuis ce moment-là, j'y pense souvent et j'ai beaucoup réfléchi à ça et tout et rendons à César ce qui lui appartient. C'est beaucoup grâce à une personne, une artiste que j'aimerais dire que c'est mon amie mais on ne s'est vu qu'une fois. Mais je la suis depuis très longtemps.
Si on peut dire que c'est ton amie comme ça.
On peut dire que c'est mon amie pendant le. Mais que donc alors. En fait, elle s'appelle Missa Andria sur Instagram et elle fait un podcast qui s'appelle La couleur de l'art où elle interroge la place des personnes racisées dans l'histoire de l'art. Et en fait, elle fait du dessin je pense qu'elle est bibliothécaire. En tout cas, bon, désolée, je déballe toute sa vie. Et en fait, c'est juste qu'à un moment, elle avait un gros compte militant sur Twitter. Enfin, elle était. Elle parlait d'afroféminisme notamment sur Twitter et de lutte sociale. Et à un moment, elle a supprimé son compte. Et maintenant, sur son Instagram, elle parle beaucoup, par exemple, de manga et d'anime parce qu'elle aime beaucoup ça. Et donc, et elle parle beaucoup du fait que des gens lui demandent un peu, genre, s'attendent à ce qu'elle fasse du militantisme. Et en fait, elle a plein de réflexions super intéressantes parce que je pense qu'elle est syndiquée. Enfin, elle parle. Je pense qu'elle, en tout cas, qu'elle milite dans la vraie vie, comme elle fait partie d'actions collectives, d'actions sociales. Et en fait, elle parle un peu des limites que peut avoir le militantisme. Internet et enfin elle parle. C'était des stories qu'elle a fait, c'est pas un article et tout parce que justement Il y a un peu ce truc-là de ne pas s'attendre non plus à produire du contenu militant. Et elle parle aussi du droit à avoir des espaces de l'imaginaire, en fait, pour nous, qui soient un imaginaire safe et voilà, et qu'on ait le droit aussi à toute la richesse de la fiction, de l'imaginaire, et pas uniquement à tout le temps des histoires militantes. Et je trouve ça super intéressant, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir, parce que moi, il y a eu aussi un moment où j'ai fait... Enfin, moi, maintenant, souvent, les trucs militants sur Instagram me dépriment énormément, et pas en mode que c'est la faute de ces gens-là, mais au bout d'un moment, tu lis des témoignages, quand il y a eu la fille de Paita Schneck qui a dit, en fait, j'en peux plus, parce que ça fait 5 ans que je récolte des témoignages, et hier, je me suis fait agresser, et rien ne change, genre, je le file à 10 000%, ce truc-là. Et aussi la douceur que peuvent nous apporter les histoires. Moi, justement, j'adore le cinéma, par exemple, parce que je me suis rendu compte que j'aimais trop avoir des émotions et que c'était trop bien d'avoir des émotions dans un espace contrôlé. Et ça s'applique à toutes les autres formes d'art, bien sûr, mais j'ai vraiment eu un truc avec le cinéma. Bon. Et donc, tout ça pour dire que j'ai beaucoup, beaucoup pensé à ça, parce que moi, voilà, je dis ça et j'ai sorti un livre qui parle de violence sexuelle et de dépression. Et... c'est une dépression très ancrée dans un contexte social. Voilà, c'est une jeune femme entre 25 et 30 ans dans un milieu qui est un milieu avec des gens plutôt précaires, plutôt on va dire de gauche, qui ressemble un peu à mon milieu social en fait, même si c'est pas exactement le même. C'est pas une fille de province qui travaille dans un bureau, parce que je connais pas cette réalité là et c'est super, c'est super déprimant, mais c'est vrai que c'est une BD qui parle de dépression. Et après voilà, je pense aussi que ce que j'ai voulu faire avec ça, c'était créer un espace où, enfin, une histoire où on peut lire ça et pas se dire « Oh, je vais être déclenchée, ça va pas être sensationnaliste. » J'espère, je dis pas que j'ai réussi, mais moi, mon but, c'était vraiment de pas déclencher les personnes qui vivaient ça. Je voulais pas les « triggered », comme on dit, là. C'est vraiment les personnes concernées que j'avais en tête quand j'ai écrit le livre. Je voulais pas que ce soit douloureux et sensationnaliste, que ça soit en mode « Waouh, regardez, elle a vécu un trauma et là, elle va se suicider », parce que c'est beaucoup ça. Ou alors c'est « Ouh, et là, elle s'est sortie les doigts du cul, elle est allée marcher en forêt, et puis... Oh, » Désolée, je suis hyper vulgaire, pardon. Elle s'est réveillée un matin et qu'elle a décidé de, voilà, aller prendre une petite marche en forêt. D'un coup, elle est guérie et tout va bien. Bon. Et là, maintenant, par contre, donc, je suis en train de finir mon prochain livre. Et j'avais cette envie de douceur, en fait. J'avais, y a aussi un truc, moi, dans ma vie qui s'est passé et qui a été très important pour moi, c'est que je suis... devenue lesbienne, voilà, j'ai commencé à relationner, enfin, avoir des relations uniquement avec des femmes ou des personnes s'identifiant comme lesbiennes, et ça a été un grand changement dans ma vie, dans le sens aussi que ça, c'est étrange, c'est la première fois que j'en parle genre dans un truc si public. Non, c'est pas du tout, parce que je pense que c'est un truc très politique aussi, mais dans le sens que c'est aussi drôle, on a rarement la place de parler de ça, et là je me permets, mais dans le sens que d'un seul coup, en fait, mon entourage changeait, il y avait des dynamiques qui changeaient, et c'était beaucoup plus doux. Il y a un truc aussi entre les meufs, que ce soit des meufs lesbiennes ou pas, hein, mais c'est Adrienne Rich qui dit dans l'hétérosexualité compulsive et l'existence lesbienne, qui a un excellent article sur ça, où elle dit en fait, les femmes en général, souvent elles trouvent leur bonheur, il vient surtout des autres femmes, en fait. Et leur malheur vient surtout des hommes. Et ça veut pas dire que tous les hommes sont des merdes. Ça veut dire que le bonheur et le bien-être d'une femme dépend, hétéro en tout cas, dépend de sa chance de pas tomber sur... Et donc, d'un seul coup, moi, j'ai eu vraiment ce besoin de douceur. Et parce qu'aussi, je regardais plein. J'avais vraiment besoin de rattraper ma culture lesbienne, en fait... J'ai regardé plein de films, j'ai lu des livres, j'ai écouté plein de musique.
T'avais l'impression qu'il fallait rattraper un truc.
Mais parce qu'en fait, d'un seul coup, tu te rends compte que pas rattraper en mode pour que les autres gens...
Ouais, une bonne lesbienne.
C'est ça, voilà. Moi, par exemple, alors je veux pas du tout nier l'expérience de personne, mais moi, j'ai jamais rencontré aucune... On parle beaucoup de la biphobie dans les milieux lesbiens, et c'est probable qu'il y en ait. Enfin, voilà. Moi, jamais, quoi. J'ai jamais eu besoin de prouver quelque chose. Non, pas du tout. Au contraire, c'était plus que... Waouh, enfin, voir des histoires où c'est pas des conflits, où c'est pas, où la femme est pas juste un objet, où la enfin, je sais pas, super dans le cinéma lesbien, c'est que premièrement, alors quand c'est autour d'histoires d'amour, c'est beaucoup focusé sur l'action, genre dans le sens des personnes actives et non pas une personne qui doit conquérir une autre ou une personne qui a une potiche, quoi, comme c'est deux sujets qui, ouais, tombe amoureuse ou... Et quand ça parle pas de ça, en fait, moi, il y a un de mes films préférés, c'est Go Fish. C'est un film qui a coûté 10 000 dollars à faire. C'est en noir et blanc des années 90 qui raconte une petite histoire d'amour. Voilà. Et un truc super intéressant dans ça, c'est la place du groupe. Au final, l'histoire d'amour est aussi importante que l'histoire, les histoires d'amitié, les dynamiques d'amitié, de prendre soin les unes des autres, que ce soit par le care, que ce soit par te caser avec machine, que ce soit par organiser un petit souper pour que tu puisses choper ton petit kick, que ce soit tu t'es fait virer de chez toi parce que un mec a révélé à ta mère que t'étais lesbienne et voilà. Et il y a aussi un truc super dans ce film, par exemple ce personnage là c'est un personnage latina et il y a une des héroïnes du film qui est blanche qui commence à dire ouais je vais lui péter la gueule et tout, et là elle lui dit mais en fait genre juste tais-toi, tu sais pas, toi ta place là c'est juste de m'accueillir chez toi. Et un peu cette place de white savior, elle est vraiment au détour d'une phrase genre critiquée. Et je trouve que c'est bien sûr la réalisatrice, c'est aussi une réalisatrice latina et tout, donc ça c'est pas ça. Mais voilà, il y a plein de... Je trouve que c'est super et il y a beaucoup de richesse dans le cinéma. Ben, probablement pas que le cinéma lesbien. Mais je veux dire, en tout cas, dans ce cinéma-là, dans ces histoires-là, dans ces livres-là, et moi, j'ai eu besoin d'un seul coup de voir des histoires. C'est très dur maintenant pour moi. Enfin, je dis pas que je peux pas regarder des films hétéros, c'est pas du tout ça que je dis, mais c'est tellement des dynamiques différentes.
C'est compliqué de voir le déséquilibre quand t'es habitué à un truc un peu plus sain.
Exact, c'est ça. Et d'un seul coup, t'as envie de voir ça tout le temps, et aussi t'as envie de voir des choses qui te ressemblent. Enfin. Voilà, moi j'ai vraiment eu ça et j'ai vraiment eu ce truc de je crave vraiment genre ce contenu là et même encore maintenant, mais je pense qu'il y a en plus ça a été accentué par la pandémie parce que d'un seul coup moi je voyais plus mes amis, je voyais plus, bah voilà, on était confinés aussi au Canada, c'était hardcore, genre on n'a pas pu voir des gens jusqu'en genre juin de cette année, c'était compliqué. Donc l'isolation faisait que j'avais vraiment envie de ça, voilà. Donc tout ça pour dire que ça m'a donné envie aussi de douceur et ça m'a fait justement beaucoup réfléchir à ces questions d'imaginaire safe. Et je trouve que effectivement on voit tout le temps des histoires du point de vue d'un homme blanc hétéro. Donc au final, toi, même si tu regardes un film, je sais pas, moi je dis ça, mais j'adore, il y a plein de films que j'adore faits par des hommes blancs hétéros, mais tu dois toujours débrancher ton cerveau à un moment où t'es sur tes gardes, tu vois. Parce que tu sais pas si quelque chose peut être bien traité. En plus, il suffit que tu puisses être déclenché par tel ou tel sujet. Enfin, voilà. Et on dirait que c'est fatigant d'être sur tes gardes tout le temps. Et on a le droit d'avoir de la fiction aussi plus douce et plus légère. Et même, en fait, pas forcément plus légère sur des sujets pas importants, pas lourds, mais juste qu'ils soient bien faits. Genre, là, j'ai vu dernier film de Afzia Herzi, Bonne Mère, je sais pas si tu l'as vu.
J'ai même pas compris le nom de la personne.
Afzia Herzi, je pense que c'est possible que je le prononce mal. Elle a été révélée dans le film La Graine et le Mulet de Abdelatif Kechiche. Okay. Lui, je n'aime pas du tout son cinéma et en plus, il n'a pas une très bonne réputation. Mais,
en effet.
Excusez-moi, je clash. Enfin, j'arrête pas de dire. Je pense pas que c'est bien de name dropper pour dire du mal. Mais donc, j'avoue que lui, je suis pas. Lui, c'est du male gaze à 2000%. Mais donc, elle, voilà, elle jouait dans ce film-là, elle a joué dans d'autres films et tout. Et elle avait fait un premier film que j'avais adoré qui s'appelle Tu mérites un amour, qui est tellement un beau titre d'ailleurs. Et là, en fait, c'est juste le portrait d'une femme. Je pense qu'elle est femme de ménage. Je m'excuse, je l'ai vue il y a pas très longtemps, mais c'était dans un festival, donc entre plein de films. Et en fait, je pense que c'est à Marseille, dans les quartiers. Enfin, c'est vraiment une famille assez populaire. Je pense maghrébine. Il y a le fils qui est en prison parce que je sais plus qu'est-ce qu'il a fait. Il y a des enfants en bas âge. Enfin, c'est comme vraiment le genre de famille qu'on voit dans les médias français, hyper dépeinte en mode hyper triste, hyper misérabilisée. Et en fait, là, c'est tellement filmé avec de la lumière et de la douceur et de la beauté, et des fois ça parle de choses difficiles et je dis vraiment pas ça en mode waouh c'est magnifique, elle a sublimé la misère, pas du tout quoi, c'est juste montrer la beauté dans ces moments là et c'est comme pareil un autre film qui s'appelle The Miseducation of Cameron Poe et j'ai oublié le nom de la réalisatrice, Désirée Akavan je pense, en tout cas bon, et c'est un film, bon alors c'est un peu un film hollywoodien et tout, mais qui parle de thérapie de conversion, un peu un film Sundance, genre un indie mais quand même gros budget. Thérapie de conversion dans les années 80, et ce qui est un sujet qui m'intéresse pas forcément en soi, parce que c'est souvent justement montré comme un truc super, beaucoup sur la violence que vivaient les personnes et que vivent encore les personnes queer et tout ça, et là en fait c'est vraiment focusé sur les moments de beauté, l'amitié qui se lie entre les personnages, leur résistance, et plus qu'en fait la violence qu'ils subissent dans ce centre-là, c'est vraiment plus axé sur les moments de joie, les moments, ouais, voilà, les moments de lumière, quitte à ce que ça fasse, qui éteigne de dire ça, mais ouais. Mmh. Et donc tout ça pour dire, je trouve que c'est très important d'avoir ces moments-là dans la fiction. Et là, dans mon livre, la première partie c'est drôle, ça parle d'une rupture, ça parle d'un truc super difficile. Et la deuxième partie, par contre, ça parle de se choisir. Et en ce moment, je suis en train de finir d'écrire la deuxième partie et c'est trop bien, c'est trop fun. J'écris mes trucs et j'ai un peu le sourire aux lèvres parce que c'est, j'écris des blagues, j'écris des meufs gentilles les unes avec les autres. Il y a un truc avec une coop de meufs qu'on fait un café et tout. Et donc il y a un peu des blagues, il y a un peu des moments où elles se taquinent, des moments où elles parlent entre elles de d'art parce que c'est aussi des artistes et de leur travail. Et en fait c'est hyper le fun. Je pense que c'est Céline Sciamma, je me rattrape, je name drop en positif, je pense que c'est Céline Sciamma qui dit que elle essaye de faire un cinéma sans conflit, enfin genre dans l'égalité, en sortant de il faut pour écrire une histoire être dans le conflit. Et en vrai c'est vrai quoi, il y a plein de choses. Il y a plein d'histoires à raconter dans ces moments-là, quoi, je trouve. Et je pense qu'on a le droit à avoir aussi ces histoires-là sans avoir besoin soit d'être sur nos gardes, soit de déconnecter notre cerveau dès qu'on n'est pas dans la norme du spectateur et qui, en plus, le mec blanc, hétéro, bourgeois, voilà, occidental, je pense que c'est une toute petite partie des gens qui regardent les films, en fait. Mais tout est calibré pour lui.
Oui, parce que de toute façon, les autres sont habitués à devoir se calquer là-dessus. Donc,
c'est ça. Et je disais ça à une maman l'autre jour, parce que la Ligue des Superféministes, donc un livre didactique sur les questions féministes pour les jeunes que j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, c'est écrit d'abord pour les... »
Je veux dire, parenthèse là-dessus, il y a un truc qui me fait rire, c'est que ma copine veut l'offrir à ses neveux, sauf que les parents des enfants n'est pas trop ouverts au féminisme et tout, et donc elle l'a mis chez leur grand-mère en fourbe, pour qu'elles leur lisent. Et je trouve ça beaucoup trop mignon.
C'est trop cool. Trop mignon. Ouais, j'ai déjà des histoires de parents qui confisquent le livre. Étrange, mais en même temps, c'est vrai. Le titre, c'était mon maîtrise qui l'avait. On l'a choisi ensemble et j'étais un peu comme ça risque d'arriver. Mais... Alors que pourtant, c'est un livre qui est très... enfin moi mon but, je voulais faire un livre super systémique, genre qui explique juste comment les choses fonctionnent. Et du coup bah forcément oui c'est politique parce que tout est politique, mais c'est vraiment un truc j'explique comment les choses fonctionnent et non pas bon en tout cas
oui donc pardon mais je t'ai coupé.
Non c'était, j'ai adoré cette parenthèse. Non c'était, c'est trop mignon. Moi aussi je lisais les BD chez ma grand-mère en plus, donc je comprends ce truc de le stock de BD secret. Du coup, ce livre-là, en fait, il y a les personnages vecteurs, comme c'est donc avec ceux avec qui on suit l'histoire là, c'est un petit garçon et une petite fille. Et moi, quand j'ai écrit le livre, ben, je voulais pas du tout mettre le petit garçon plus en valeur. Et du coup, la petite fille, elle est plus souvent. Ah oui, mais c'est vrai que nous, on fait ça parce que ben, ça parle de sexisme. Donc c'est sûr que les personnes qui sont lésées dans ça, c'est plutôt les petites filles que les petits gars, quoi. Mais ça veut pas dire que je veux dire, des fois, le petit garçon, il dit « nous », ils sont à part égale. Mais on m'a beaucoup dit « ah, mais c'est dommage, c'est un livre pour filles, plutôt. » Parce qu'en fait, il y a tellement cette idée que si c'est fait pour garçons, ça doit être calibré pour garçons. Et là, j'en parlais avec une maman qui me disait « ah, je trouve que c'est important de l'offrir à nos garçons, je l'offre à mon fils et tout. » Et je lui disais « ah oui, mais moi, de toute façon, enfin... » Je l'ai vraiment pensé comme un livre mixte, quoi. Et qu'au final, c'est un bon entraînement parce que nous, voilà, je veux vraiment pas dire mon livre est trop bien, j'ai trop bien réussi mon coup. Mais en tout cas, ma pensée derrière, c'était plus que, en tant que minorité sociale, c'est-à-dire une minorité qui est pas numéraire, mais juste comment elle est vue dans la société et son pouvoir dans la société, on est toujours obligé de se projeter dans d'autres, dans des personnages qui ne nous ressemblent pas. Et c'est une force, en fait. C'est quand même bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que souvent, les histoires qui sont pas écrites par ces mecs-là qui sortent du moule pour lequel tout est fait sont plus intéressantes, parce que juste, c'est pas les mêmes histoires, c'est des points de vue différents et on en a besoin, quoi. Et on a besoin de plus raconter les mêmes histoires. Et des fois, je vois des films où, genre, le truc hyper difficile, c'est genre, ah, c'est tellement dur pour nous, les hommes, quand on est un peu nerd et qu'on a des lunettes, parce que des fois, on est amoureux et on n'ose pas parler aux femmes et c'est tellement triste. Et là, t'es comme, waouh, ça, votre trauma, ok. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça, j'avais lu, je vais pas citer parce que bah, je me rappelle pas du tout quoi, mais je me rappelle que j'avais lu une étude sociologique sur l'empathie qui disait que moins t'es confronté à des choses différentes de toi, moins t'es empathique. L'étude, c'était en gros par rapport aux riches, et ils montraient à des riches des documentaires sur des pauvres, c'est un peu horrible de dire ça, et à la fin, les riches étaient comme plus empathiques sur en tout cas, bon, je me rappelle plus du tout du contexte, donc ne prenez pas ça comme ça. Voilà, je m'adresse à tout le monde en mode rigueur scientifique, s'il vous plaît, ne prenez pas ça pour. Mais moi, je pense en tout cas que on développe l'empathie en se mettant à la place des autres. En fait, enfin, ça me semble, je pense pas que c'est trop tiré par les cheveux. Et forcément, si toute la vie on te donne des petits chaussons à ta taille et que tu dois jamais te mettre à la place de quelqu'un d'autre, ben tu vas être beaucoup plus égoïste et beaucoup plus incapable en fait de laisser la place. Et ça renforce. Et je pense que c'est fait exprès justement pour renforcer ce système de domination, de pouvoir où on ne laisse pas la place, quoi. Enfin.
Pour revenir sur ce que tu disais avant. J'ai fait lire un truc que j'avais écrit à ma copine l'autre jour et elle m'a fait remarquer, parce que c'était une histoire d'amour entre deux filles qui finissaient mal, et elle m'a fait remarquer que ça finit toujours mal, les fictions ou les histoires sur des couples qui sont pas hétéros. Et là, j'ai fait « Oh, fuck !» Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins, je trouve, de trucs où ils finirent heureux et eurent beaucoup d'enfants ou pas, mais juste, c'était cool, quoi.
Pas mal, quand même. Non, mais genre, bon plan de vie. Mais oui, mais aussi, tu vois, je suis d'accord. Et je pense qu'aussi, on peut se mettre soi-même des carcans et tout. Mais tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai une playlist qui s'appelle juste « Oui ». C'est ma playlist de chansons préférées. Et dedans, à un moment, j'ai regardé et c'est carrément 95% de chansons de rupture. Et je suis beau des PZK, quoi. Comme genre, je veux dire, je pense que c'est normal qu'on veuille parfois aussi parler d'amour triste et de choses... Mais d'une façon... Par exemple... Moi, le truc que j'évite, là, voilà, j'ai eu un petit délire à Halloween. Je me suis dit, waouh, j'adore les vampires et j'adore les lesbiennes. J'aimerais bien voir des histoires de vampires lesbiennes. Erreur, ne tapez pas vampires lesbiennes sur Google. Vous n'allez pas trouver les films que vous pensez. Et donc, j'ai demandé sur Twitter et tout. Et il y a des gens très gentils qui m'ont donné des références et j'en ai regardé quelques-uns et tout. Mais moi, je voulais vraiment des films faits par des femmes, lesbiennes ou non, mais pas par des mecs. Parce qu'on savait, je savais très bien qu'est-ce qu'ils allaient pro. J'ai googlé, mais je savais quand même qu'est-ce qui allait être projeté dans cette figure-là. Et en fait, je pense qu'aussi c'est différent quand on écrit soi-même une histoire. Par exemple, si nous-mêmes on a des relations lesbiennes et qu'on écrit une histoire d'amour lesbienne triste, ça va être différent de quand c'est écrit par Michel Blandu qui fait genre un film en mode. Voilà. Par exemple, moi je trouve que Gazon maudit, c'est un excellent film de lesbienne et pourtant écrit par Josiane Balasco qui après. Je n'en sais rien. Peut-être que je me dis pour quand même pour représenter le milieu lesbien comme ça, tu veux quand même y faire
faut
un
avoir
petit tour quoi.
Le terrain.
Ouais, moi je pense. Mais tu vois, il y a quand même un truc bon. Mais c'est aussi pour ça. Je pense que la parole déconcernée, ça peut avoir des limites dans le sens que des fois tu dois. Moi par exemple, voilà, il y a des gens quand c'est comme ça que je disparais, qui m'ont écrit en mode oui, j'aimerais savoir si je le range sous. On Voice, je pense que c'est comme ça qu'on dit quand c'est des gens concernés qui écrivent. Est-ce que t'as déjà été dépressive? Est-ce que ça a déjà vécu des violences sexuelles?
Des gens, ils te contactent pour te demander ça?
J'ai eu des gens qui me demandent ça et des fois aussi des gens qui me le demandent en dédicace ou et tout. Et je suis, en fait, je leur dis, mais vous pouvez pas demander ça à quelqu'un, en fait. C'est juste, si moi j'en parle pas, vous n'avez pas le droit de me demander. Et des fois, c'est très gênant parce que c'est des personnes, je sais qu'elles cherchent du soutien, un truc. Mmh. Et je dis, mais je ne peux pas, en fait, te dire ça. C'est quelque chose que si j'ai choisi de pas le dire, c'est parce que c'est... Moi, bon, à un moment, il y a un journaliste, mais clairement, et le mec, il voulait juste dire, désolé, trigger warning, violence sexuelle et tout, je veux pas... Mais le mec, je sentais que sa question, c'était, est-ce que t'as été violée? Il a fini par la poser, tu vois. Et j'ai dit un truc en mode... J'ai dit, en fait, ouais, c'est drôle, les femmes, on leur demande toujours si jamais c'est leur fiction. Je disais, moi, j'incite que c'est une fiction et tout, et... Voilà, donc je pense que ça a ses limites de vouloir la parole des concernés, mais après, souvent, ça, c'est plus justement des personnes pas concernées qui vont un peu fétichiser ce discours-là. Mais en soi, la parole des concernés, c'est pour ça que écrire des histoires qui nous touchent, ça sera toujours différent que si c'est fait pour justement faire un peu un plot twist ou que c'est dans un peu sensationnaliste.
Et en fait, elle était gay!
Qui l'eût cru? Mais c'est vrai aussi que j'ai une amie qui disait ça parce que là, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Tove et qui est un biopic de Tove Jansson qui est celle qui a fait les Moomins. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Oui, les petits trucs qui ressemblent à des pandas, des hippopotames.
Exact.
Quoi.
Et donc, je ne sais pas si tu savais, mais Tove Jansson était lesbienne et elle a vécu avec son amoureuse pendant 40 ans sur une île qu'elles ont achetée à l'écart de tout. Enfin, les meufs, best life, enfin, où elles faisaient ses dessins et puis elles étaient in love et voilà.
Bah, c'est vraiment, elles vécurent heureuses avec des enfants ou pas, mais c'était cool.
Mais c'était trop cool, enfin, franchement. Et en fait, ce film-là, ça parle de son histoire d'amour juste avant, qui était une histoire d'amour avec une meuf qui était un peu une croqueuse d'hommes et de femmes de la haute bourgeoisie du début du XXe siècle qui était la briseuse de cœur, quoi. Au final, moi j'ai aimé le film, elle l'a aussi aimé, même si elle avait, je pense, ses craintes avant. Mais c'est vrai qu'elle était un peu en mode genre, on aurait vraiment, heureusement, on voit sa meuf après, mais on aurait aimé aussi une histoire sur L2 qui vivent leur best life de lesbienne dans une petite cabane, quoi, sur une île, en dessinant les moumines. Et d'autres choses, elle écrivait aussi des romans et tout ça. Je pense qu'à la fin de sa vie, elle était un peu petite. Je pense qu'elle faisait un peu les moumines pour payer le bois, l'île. Du poêle à bois, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'on est souvent... faut souvent que ce soit des histoires un peu dramatiques. Mais en même temps, là, j'ai vu un film, Working Girl, c'est un film sur une maison close où on voit vraiment ça comme un travail, quoi. Elles sont filmées comme des travailleuses et c'est filmé pas du tout de façon misérabiliste et non plus pas du tout de façon hyper glamour, quoi. Ça se passe dans une maison close, c'est des travailleuses du sexe, mais c'est leur travail, quoi. C'est juste... Mmh. Et là où c'est montré comme pas cool, c'est un moment, un homme qui, parce que c'est donc une relation sur deux femmes, et un mec qui, voulant séduire une des deux et sachant qu'elle est prostituée, va payer pour coucher avec l'autre, pour comme lui faire une sorte de... Et donc là, tu vois, tu me vois un peu ces enjeux de pouvoir. Et c'est une relation hyper tumultueuse entre ces femmes-là, mais c'est pas du tout, tu vois, c'est pas du tout cliché en mode... Enfin, c'était quand même cool à voir, tu vois, qu'on ait droit aussi à nos petits dramas sans que ce soit l'homophobie
Avoir des dramas qui sont pas liés à l'orientation, quoi.
Ben c'est ça. Là, par exemple, donc j'ai le film, le court métrage que j'ai écrit, ça parle de deuil, mais il se trouve que les personnages, c'est quatre meufs et c'est des lesbiennes. Et donc ça parle de deuil. Et à un moment, j'avais rencontré des producteurs, ils m'avaient dit, ah, mais trop bizarre. Ah oui, c'est des lesbiennes, je dis comme, ouais. Parce qu'ils étaient en train de dire, ouais, en ce moment, le seul truc en financement, c'est des trucs LGBT. On en a marre des LGBT. Et j'étais comme, ouais, en fait. Spoiler, je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même des meufs qui sortent ensemble. Donc. Ils étaient comme, ah mais trop bizarre, pourtant ça parle pas d'homophobie. J'étais comme,
oh, ouais. Est-ce qu'il faut leur dire qu'il y a pas que ça?
Alors en fait, comment vous dire? Et ils ne m'ont plus jamais recontacté, mais en même temps je pense pas que j'aurais aimé.
Voilà. Et pourquoi tu veux regarder surtout des choses où les gens parlent de leurs émotions?
J'adore les gens qui parlent en général et tout. Et en fait, je trouve que... En général, j'adore entendre les gens parler de leurs émotions. Tu vois, j'écoutais l'émission avec Silly Boy Blue et que j'aimais trop que à un moment, tu lui dises « Ouais, tu parles tout le temps de relations. » Et moi, j'étais comme « Oui, plus. » Non, mais parce que je trouve ça super intéressant. Et je trouve qu'au final, c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un qui est hyper cartésienne. Genre, je crois pas du tout à l'astrologie, à la magie, etc.
T'es pas sur costard.
Je suis pas sur costard. Oh, wow. Je suis pas du tout... Alors, vous pouvez imaginer que c'est compliqué de dater en tant que lesbie quand on ne croit pas à l'astrologie. Voilà, moi, c'est pas du tout mon truc, et ça peut même, des fois, quand les gens essaient de deviner ma personnalité à cause de ça, ça peut même m'irriter.
Je comprends.
Je trouve que c'est un peu insultant. Je suis comme, je me suis construite toute seule, enfin, avec mes biais sociaux, mais genre.
J'ai ce Mercure en dehors de ça, j'en ai pas besoin qu'il rétrograde pour me sentir mal.
C'est ça. Et du coup, quand mes amis parlent de ça, je zone out un peu et tout. Bon. Mais bon, tout ça pour dire, par contre, je pense que vraiment, et à un moment, ma psy me disait, ah, Marion, essaye d'être un peu plus, spirituel, peut-être que si t'étais plus spirituel, tu serais plus connecté aux autres. Et j'étais comme, ah, mais non, mais moi, enfin, oui, je pense pas que je suis spirituel dans le sens ni religieux, ni magique, ni n'importe quoi. Par contre, je suis très intéressée à comment on est relié aux autres personnes, aux énergies qu'on a entre nous, et pas énergie au sens ésotérique ou magique, mais plus, social, à ce qu'on dégage, à qu'est-ce qu'il y a dans un non-dit, qu'est-ce qu'il y a dans, je vais encore parler d'Anna, mais parce que elle disait que des fois elle était amoureuse toute seule dans sa chambre de gens pendant 2 mois sans qu'ils le sachent, et je trouve ça hyper beau en fait, et je trouve que c'est un amour qui est différent bien sûr d'une relation que t'as avec quelqu'un, ou même d'un amour que t'as avec une personne avec qui il va jamais rien se passer mais qui a quelquement une tension. Enfin, il y a tellement de formes que peut prendre les émotions, tellement de choses douces et belles et tristes parfois, et tellement de nuances en fait dans les émotions humaines, et moi j'adore en fait avoir des émotions, et pour moi en fait quand je lis des histoires, je suis très anxieuse, j'ai été diagnostiquée trouble de l'anxiété majeure, j'ai fait le plus haut score, donc désolée. Bravo. Si vous vouliez vous battre contre moi. Maintenant je prends des petits médicaments et ça a changé ma vie de pas me réveiller en pleine nuit en mode J'écris bien cordialement au lieu de cordialement dans le mail à ma directrice de mémoire. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre mon visa et devoir rentrer en France. Bon. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai donné cette information sur l'anxiété? Ah oui, c'est ça. Mais, et donc, ça fait que j'ai un caractère qui est anti-addictif. Je ne suis addict à rien parce que j'ai très peur d'être addict de base. Mais je suis quand même... je dirais que le truc où j'ai le plus d'addiction, c'est les petites émotions. Et c'est comme un petit shoot d'émotions. Genre des fois, ok... Des fois, je suis très fière de ce que je vais dire là et j'espère que tout le monde va pouvoir relate. Par exemple, des fois, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que je fais? Je tape Star à domicile sur YouTube et là, je regarde soit l'épisode avec Nolwenn, soit l'épisode avec Emma Domas, soit l'épisode aussi avec Priscilla, qui est très émouvant, ou plusieurs... Je pleure tout le temps, quoi. À un moment, j'ai envoyé une photo de moi à mon frère et ma sœur, on a une conversation WhatsApp, c'est un selfie de moi qui pleure et j'ai dit « Devinez ce que je regarde ». Et là, ma sœur a dit, bah, je sais pas, j'ai dit, bah, Star à domicile. Elle m'a dit, mais maman, tu les as pas déjà vus, genre, 5 fois? J'étais comme, oui. Et juste, des fois, j'ai besoin de lâcher une petite larme, quoi. Et je sais qu'un petit Star à domicile, parce que, donc là, je sais pas si tu sais ce que c'est Star à domicile, c'était.
Oui, si, mais moi, je trouve que celui qui fait le plus pleurer, celui avec Laurie, parce que la gosse s'en bat les couilles.
Putain, ça, c'est trop gênant.
Et elle retourne dormir. Plutôt que de chiller avec Laurie.
Il vaut mieux regarder celui où elle fait la statue de cire au musée Grévin.
Ok, pardon.
Parce que là, mais parce que tu vois, c'est moi aussi, je me sens trop mal pour Laurie dans ça.
Ouais.
C'est un peu comme quand moi, je regarde pas ceux avec les personnes adultes parce que eux, ils sont franchement gênants parce que sauf quand c'est, il y en a genre deux où c'est clairement des hommes gays qui sont juste hyper fans de genre, je pense c'est Lara Fabian et Céline Dion. Donc ça, peut-être pas Céline Dion. En tout cas, mais donc c'est chill. Mais sinon, c'est beaucoup des personnes qui veulent choper la star. Donc ça, c'est très malaisant. Oh. Ça, je n'aime pas. Genre à un moment, celui avec Marc Lavoine. Très gênant parce que c'est un mec qui fait ça pour sa meuf et sa meuf clairement elle est en mode I want you man. Extrêmement mais ouais c'est lui avec Laurie, il est dramatique quoi, genre ouais. Putain, en plus elle avait genre 16 ans quoi.
Non,
elle était super jeune. Ouais.
Ah, oui.
Non mais imagine à 16 ans, c'est comme j'y pensais parce que dans ma tête tu vois Laurie et Hallyday, elles sont toujours plus vieilles que moi, je les vois à 16 ans, je me dis ah oui, elles avaient 35 ans, tu vois. Enfin, dans ma tête, elles sont toujours plus vieilles que moi parce que j'avais 7 ans à l'époque et que mais je vois celle avec Alizé et c'est un bébé quoi, et là elle surprend une fan et elle a une boum et c'est des enfants qui ont 10 ans quoi, genre c'est juste elle a l'âge d'être babysitter, enfin ça doit être hardcore. Bref, tout ça pour donc je parlais du cinéma et d'un seul coup je parle de Star à domicile.
Non, on parlait d'émotions.
D'émotions. Mais ouais, mais du coup enfin moi j'avoue que j'ai besoin de j'adore ressentir des émotions et il y a un truc avec les histoires. Et je pense que c'est pour ça qu'en plus, moi, je suis extrêmement sensible. Je suis très facilement déclenchée par, justement, trigger de... Déclenchée, ça fait bizarre de dire en français, mais bon, c'est bizarre de dire trigger aussi. Mais par des histoires et tout, parce que j'ai besoin d'avoir ces émotions et je suis très sensible, je pense, aux émotions, que ce soit... Il y a des gens qui me disent, ouais, la BD, par exemple, j'ai du mal à avoir des émotions en lisant ça. Moi, j'ai déjà pleuré en lisant des BD, j'ai déjà été hantée par des bandes dessinées, j'ai déjà eu physiquement envie de vomir... À cause de la BD Black Hole de Charles Burns, qui est une BD où il y a, tu l'as lu,
c'est glauque à se faire.
Et vraiment, j'avais envie de vomir, quoi. La même nausée qu'un jour, je me suis coupé la main et j'ai vu ma peau et ça m'a fait genre un peu genre faire un petit malaise vagal. C'était la même chose, mais pour une BD. Bref. Et donc c'est pour ça, je sais que je fais, je suis très sensible aux émotions et j'en ai très besoin aussi. C'est qu'à la fois j'en ai très besoin et en même temps je suis pas du tout dans le potin ou machin et par exemple je regarde pas du tout de vidéos de gens qui parlent justement de story time ou de choses comme ça et dit-elle en enregistrant un podcast mais dans le sens tu vois je dis pas ça dans le sens que je veux savoir l'avis de tout le monde c'est juste j'aime bien les histoires parce que justement c'est un peu safe en même temps c'est comme une fausse vraie histoire je sais pas trop comment
ah dire. Oui il y a des émotions mais dans un cadre où tout est gérable.
Exactement. Ouais. Et en même temps aussi, c'est, je trouve que, par exemple, pour reparler de Céline Sciamma, mais Portrait de la jeune fille en feu, c'est un film qui m'a donné une claque magistrale, bouleversée, bien sûr, j'ai pleuré pendant 20 minutes dans les toilettes du cinéma après, mais aussi parce que tu sens à quel point tout est si tu t'arrêtes un peu et que tu réfléchis, tu vois comment tout est maîtrisé, bien construit, que ce soit la lumière, que ce soit l'histoire, que ce soit l'écriture, enfin, tout est minutieux. Et en même temps, quand tu le regardes, t'es happé, quoi. Et il y a un truc que moi, que je trouve incroyable dans, que ce soit les films ou les livres ou la, enfin, vraiment, la musique, n'importe quoi, toutes les formes d'art, cette fausse aisance, cette fausse fluidité, mais qu'en fait, il y a beaucoup... Enfin, ouais, voilà.
Quand t'as l'impression qu'il n'y a pas de travail, c'est qu'il y en a énormément, quoi.
Exact. C'est fou, quand même.
Ouais.
Les gens sont balèzes.
pour revenir sur ce que tu disais sur les émotions dans la BD et tout, moi c'est un truc qui m'a, auquel j'ai réfléchi après avoir relu C'est comme ça que je disparais, c'est que pour parler de la dépression, il n'y a pas de forme d'art plus adaptée que la BD, je trouve, parce qu'il y a tellement d'espace donné au vide, mais sans qu'il y ait un rythme imposé, tu vois, comme dans une chanson, bah, tu devrais attendre que ça... la BD, les cases vides où tu vois qu'elle est juste, que c'est le vide pour elle, tu peux les survoler si tu veux, tu peux les regarder lentement si tu veux. Et pour moi, c'est, j'ai réfléchi, est-ce qu'il y aurait une forme d'art plus adaptée, et j'ai pas trouvé.
Ah, c'est intéressant. Moi, c'est un truc que j'aime dans la BD, c'est que tu peux jamais contrôler le temps de lecture. Quelqu'un va peut-être lire très vite, quelqu'un va peut-être lire très lentement, va relire, va revenir en arrière. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime parce que c'est un truc auquel tu dois penser quand t'écris une BD. Et en effet, moi, je trouve que la BD, en tout cas, c'est la forme d'art la plus adaptée pour toutes ces choses un peu intimes et de... En gros, c'est ta vision, toi-même qui la mets sur le papier, il n'y a pas d'autres intermédiaires et tout. Et en plus que la forme, justement, est forcément, d'une certaine façon, contemplative, puisque c'est toi qui décides ton rythme. J'aime ça, le fait que ça soit direct du cerveau au papier. Et pour ce genre d'histoire, en effet, je trouve que c'était... Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça pratique. Je dis pas que j'ai réussi ou que c'est bien ou quoi, mais c'est vrai que je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué avec si j'avais dû chapeauter d'autres gens, si j'avais dû... Parce que justement, il y a un truc de délicat, dans le sens de difficile un peu, et un peu comme si tu marches sur un fil pour vraiment raconter ce que tu veux raconter. Et quand tu fais de la BD, ben c'est facile vu qu'il y a juste toi quoi sur le fil, et tu dois pas mettre d'autres gens pour. Désolée, j'ai fait les mouvements de rattraper des gens invisibles.
Mais est-ce qu'ils sont avec nous dans la pièce, ces gens? dernière question. C'est quoi le dernier truc que t'as appris à ton sujet? Un truc où tu te dis, ah putain, en fait, je suis comme ça, alors que je pensais que j'étais comme ça, ou je travaillais comme ça, alors que je pensais que pas du tout.
Ben, tu vois, voilà, je pense que c'est ça, et c'est dernièrement, mais c'est parce que j'ai été beaucoup avec moi-même cette dernière année, forcément, en tout cas dans mon travail, et je me rends compte que peut-être j'ai du mal à offrir mon travail à d'autres gens, ce dont je me rendais pas compte, parce qu'avec Instagram et tout, on montre beaucoup ce qu'on fait tout le temps, tout de suite, parce que c'est de la gratification immédiate, et je sais pas, j'imagine que toi, c'est un peu pareil, dans le sens que t'as tes représentations, et t'as... Mais souvent, on est tout seul chez nous, et là, on prépare quelque chose, et là, on
a envie de dire... Personne ne valide chaque seconde. Exact. Quid.
Et t'as envie. En plus, une BD, tu vois, genre, ça prend un an à faire, et pendant un an, tu montres rien, putain. T'es comme genre, please, dites-moi que je vaux la peine d'exister. Mais en fait, c'est ça, je pense que maintenant, je me rends compte. Je savais que j'étais sensible à la critique. Mais il y a quand même un truc de, j'ai besoin d'être très en contrôle de ce que je fais. Et peut-être que ça, je pensais avant que j'étais beaucoup plus... Tu vois, quand on a tous fait le test pourri, là, MTBI, MMBT...
Ouais, ouais, MBTI, bon. Ouais.
Un truc capitaliste, ça, encore. Mais du coup, je l'ai fait plein de fois, bien sûr, dans ma vie, car j'oublie tout le temps qu'est-ce que c'est mon type. Je sais que je suis le même type que, genre, Michael Scott de The Office et, genre, Staline. Genre, extraverti, créatif.
Assez différent.
Truc, ouais, genre, pourtant. Bon. Mais j'ai changé dernièrement, justement. Et bref, en tout cas, un truc, avant, il me disait tout le temps, ouais, est-ce que tu préfères travailler toute seule ou en groupe? Et il y a un moment où je me suis rendu compte maintenant que je préfère vraiment travailler toute seule. Je pense que je me voilais la face, tu vois. J'étais en mode, non, moi, je suis une bonne travailleuse. Bon. Voilà. Donc là, je pense qu'en fait, j'ai besoin, surtout quand j'écris des choses, en fait, j'ai besoin d'être toute seule à bord dans l'écriture. Et là, par exemple, cette dernière année, j'ai commencé à refuser. Je ne fais plus de BD, ni de commandes, ni avec des gens, parce que peut-être ça va changer. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est trop intime pour moi. Et c'est ça, en fait. C'est pas un truc de contrôle en mode « Oh, je suis la meilleure et tout ». C'est juste que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de très intime et très personnel. Et je me sens attaquée presque. Mais pas attaquée sur la qualité de mon travail, mais comme un... Donc, je pense que ça, c'est un truc à devoir gérer, à mon avis. Parce que c'est peut-être pas... très sain, voilà, c'est de mettre cette intimité-là dans quelque chose qu'on partage au final avec des gens, et bref. Donc, c'est ça.
Et comment tu fais, du coup, pour gérer l'absence de shot de dopamine
Non, je montre vraiment mes trucs sur Instagram encore, voilà. Ça, je le fais, j'essaye toujours de calibrer, et après, j'essaye aussi de faire des choses pas pour Instagram, et de me détacher de ça petit à petit, parce que c'est un peu aliénant, et ça me rendait très malheureuse, les réseaux sociaux, pas Instagram, mais soit moi, dans mon idée de produire des trucs pour, soit juste de regarder, d'être perdu sur les réseaux, quoi, et de regarder. En plus, moi, je suis juste des gens de la vraie vie ou d'artistes que j'aime. Genre, je suis pas d'influenceur ou d'influenceuse. Mmh. Enfin, je ne peux pas du tout participer à cette critique Instagram, bon ou mauvais, ça donne des mauvais, mauvais vidéos et tout. Moi, c'est un outil de travail, donc, j'imagine, je pense qu'on a peut-être pas la même vision que si on est, que c'est pas un outil de travail et qu'on met pas notre travail dessus. Mais ouais, ça, tu deviens perdu dans qu'est-ce qui se passe en ce moment. Tu fais jamais assez. Il y a des gens qui sont culpabilisants, il y a des gens qui le sont pas, mais juste qui postent tel truc et là tu te mets à te comparer. Enfin,
ouais, leur existence est culpabilisante.
Genre,
en fait.
Ouais, c'est ouais. Ça. Et ça me rendait ou genre ah mais mes amis s'amusent sans moi. Enfin, tu vois des choses. Bon, et donc j'ai dû un peu prendre un pas de recul. Mais maintenant je continue et aussi je me suis mis à faire des choses. Par exemple, je fais une petite BD sur mon Insta où c'est l'histoire du fantôme. Et ça, c'est juste pour Instagram. C'est pas pour faire un livre. C'est pas pour réutiliser. C'est comme ça. C'est bien pour moi. Ça me permet de compartimentaliser un peu comme faire un blog d'une certaine façon avant. Et aussi parce qu'avant, je me disais, tu vois, il y a des fois, il y a des gens que j'admire qui me suivent. Et d'un coup, je suis comme, putain, elle doit penser que je fais trop de la merde. Oh, mon Dieu, elle a lu cette BD, mais elle doit penser que je suis trop nulle. Je citerai pas les noms parce que je me respecte, mais comme, des fois, genre, j'allais voir si quelqu'un allait toujours, et j'étais comme, est-ce qu'elle me follow encore? Ah, putain, oui, ouf. Ah, et genre, je me disais trop, je me mettais en mode, tu vois, comme quand t'as un crush. Puis tu te mets à faire des stories Instagram intéressantes tout. Moi, c'est ouais. Ça, mais genre avec des artistes que j'aime. Et sauf que d'un moment, c'est plus possible, en fait. Tu peux pas, genre, c'est des gens que tu ne connais pas, donc tu peux pas te mettre à faire juste des stories professionnellement intéressantes. Bref, voilà. Mais Instagram, c'est bien et aussi terrible et aussi très énervant de penser que, eh bien, c'est derrière des gens qui se font plein d'argent sur notre dos pendant qu'on travaille gratos, quoi. Mais voilà. À bas le capitalisme.
Merci beaucoup.
Bon mot de la fin ou pas ?
Mais oui.
J'espère que l'épisode vous a plu. Filez donc chez le libraire pour acheter les BD de Myrion Mal. J'ai mis tous les titres et liens dans la description. N'hésitez pas à la suivre aussi sur les réseaux pour avoir plein de petits dessins supplémentaires. Et puis tant que vous êtes sur votre téléphone ou devant votre ordi, vous pouvez vous abonner aux gens qui doutent, laisser des étoiles, des commentaires et tout. C'est hyper important pour le référencement. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. Merci aussi à tous ceux qui partagent les épisodes, qui me taguent sur Instagram. C'est vraiment super gentil. @FannyRuet si vous voulez vous joindre à la fête. Je suis sur Insta, Facebook, Twitter, YouTube, partout pour des blagues, des podcasts, des chroniques, des spectacles. Donc venez et à bientôt pour le prochain épisode. Des bisous! Évidemment, comme toujours, cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Wathieu.